crime. Où Bans d'Uppsala confie certaines choses, Béranger d'Arundel en confie d'autres, et Atso apprend ce qu'est la vraie pénitence. Le fatal accident avait bouleversé la vie de la communauté. Le tohu-bohu provoqué par la découverte du cadavre avait interrompu l'office sacré. L'abbé avait aussitôt refoulé les moines dans le chœur afin qu'ils prient pour l'âme de leur frère. Les voix des moines étaient brisées. Nous nous plaçâmes de manière à étudier leur physionomie quand, selon la liturgie, le capuchon n'était pas rabattu. Nous vîmes aussitôt le visage de Béranger, pâle, contracté, luisant de sueur. La veille, nous avions entendu murmurer par deux fois sur son compte, comme d'un qui avait quelque chose à voir de façon particulière avec Adelme. Et il ne s'agissait pas du fait que tous deux, du même âge, étaient amis, mais du ton élusif de ceux qui avaient indirectement évoqué cette amitié. Nous remarquâmes à côté de lui Malachi, sombre, crispé, impénétrable. À côté de Malachi, tout aussi impénétrable, le visage de l'aveugle Jorge. Par contre, nous relevâmes les mouvements nerveux de Bans d'Uppsala, le spécialiste en rhétorique connu le jour précédent dans le scriptorium, et nous surprîmes un regard rapide que celui-ci lança en direction de Malachi.
Bans est nerveux, Béranger est effaré, observa Guillaume. Il faudra les interroger sans tarder.
Pourquoi ? Demandai-je ingénument.
C'est un dur métier que le nôtre, dit Guillaume. Dur métier, celui d'inquisiteur. Il faut tanner les plus faibles au moment de leur plus grande faiblesse. De fait, à peine l'office terminé, nous rejoignîmes Bans, qui prenait la direction de la bibliothèque. Le jeune homme parut contrarié de s'entendre appeler, et il allégua quelques faibles prétextes. Il semblait avoir hâte de se rendre au scriptorium. Mais mon maître lui rappela qu'il se trouvait mener une enquête, mandatée par l'abbé, et il le conduisit dans le cloître. Nous nous assîmes sur la murette intérieure entre deux colonnes. Bans attendait que Guillaume parlât, en regardant par moments vers l'édifice.
« Alors, demanda Guillaume, qu'a-t-on dit ce jour où vous étiez à discuter des marginalia d'Adelme, toi, Béranger, Venantius, Malachi et Jorge ?»«
Vous l'avez entendu hier. » Jorge observait qu'il n'est pas permis d'orner d'images ridicules les livres qui contiennent la vérité. Et Venantius observa qu'Aristote lui-même avait parlé des traits d'esprit et des jeux de mots comme instruments pour mieux découvrir la vérité et que, partant, le rire ne devait pas être mauvais s'il pouvait se faire un véhicule de vérité. Jorge releva que, pour autant qu'il s'en souvenait, Aristote avait parlé de ces choses dans le livre de la poétique et à propos des métaphores. Qu'il s'agissait déjà de deux circonstances inquiétantes, d'abord parce que le livre de la poétique demeurait inconnu au monde chrétien tellement longtemps, et peut-être par décret divin, nous est arrivé par l'intermédiaire des maures infidèles.
Mais il a été traduit en latin par un ami de l'angélique docteur d'Aquin, observa Guillaume.
C'est bien ce que je lui ai dit, fit Bans aussitôt rassuré. Moi, je lis mal le grec, et j'ai pu approcher ce grand livre justement à travers la traduction de Guillaume de Morbecq. Voilà, c'est bien ce que je lui ai dit, mais Jorge ajouta que le second motif d'inquiétude est que dans ce livre, Aristote parla de la poésie qui est basse doctrina et qui vit de figmenta. Et Venantius dit que les psaumes aussi sont œuvres d'inspiration divine et usent de métaphores, et Jorge se mit en colère parce que, dit-il, les psaumes sont œuvres d'inspiration divine et usent des métaphores pour transmettre la vérité quand les œuvres des poètes païens usent des métaphores pour transmettre le mensonge et dans un but de pur divertissement, ce qui grandement m'offensa.
Pourquoi ?
Parce que je m'occupe de rhétorique et lis beaucoup de poètes païens et je sais, ou mieux je crois qu'à travers leurs paroles, se sont transmises aussi des vérités naturalitaires chrétiennes. En somme, à ce point-là, si je me rappelle bien, Venantius parla d'autres livres, et Jorge se fâcha tout rouge.
« Quel livre ?»
Bans hésita. « Je ne me souviens pas.
Quelle importance, savoir de quel livre on a parlé ?
Une grande importance, parce que nous sommes ici en train de chercher à comprendre ce qui s'est passé entre des hommes qui vivent parmi les livres, avec les livres, des livres, et donc même les mots écrits dans les livres sont importants.
C'est vrai, dit Bantz en souriant pour la première fois, et son visage s'éclaira presque.
Nous vivons pour les livres. Douce mission dans ce monde, dominé par le désordre et par la décadence.
Peut-être comprendrez-vous alors ce qui s'est passé ce jour-là.
Venantius, qui savait parfaitement le grec, dit qu'Aristote avait consacré tout particulièrement au rire le deuxième livre de la poétique, et que si un philosophe de cette grandeur avait voué un livre entier au rire, le rire devait être chose importante.
Jorge dit que de nombreux pères avaient consacré des livres entiers au péché, qui est chose importante mais mauvaise, et Venantius dit que, pour ce qu'il en savait, Aristote avait parlé du rire comme chose bonne et instrument de vérité.
Et alors Jorge lui demanda avec dérision si d'aventure il avait lu, lui, ce livre d'Aristote.
Et Venantius dit que personne ne pouvait encore l'avoir lu,
parce qu'on ne l'avait jamais plus trouvé et qu'il avait peut-être été définitivement perdu.
En effet, personne n'a jamais pu lire le deuxième livre de la poétique. Guillaume de Morbecque ne l'eut jamais entre les mains.
Alors Jorge dit que s'il ne l'avait pas trouvé, c'était parce qu'il n'avait jamais été écrit, car la Providence ne voulait pas que fussent glorifiées les choses futiles.
De mon côté, je voulais calmer les esprits, parce que Jorge sort vite de ses gonds et Venantius parlait de façon à le provoquer, et je dis que dans la partie de la poétique que nous connaissons, et dans la rhétorique, on trouve nombre d'observations sages sur les énigmes subtiles, et Venantius tomba d'accord avec moi.
Or, il y avait avec nous Pacifico de Tivoli, qui connaît fort bien les poètes païens, et il dit que pour ce qui est des énigmes subtiles, personne n'en remontre aux poètes africains.
Il cita même l'énigme du poisson, celle de Symphosius.
Est domus interis, clara quae voce resultat, ipsa domus resonat, tacitus sed non sonat hospes. Ambo tamen curunt, hospes simul et domus una.
À ce point-là, Jorge dit que Jésus avait recommandé que notre parler fût oui ou non, et que le surplus venait du malin, et qu'il suffisait de dire poisson pour nommer le poisson, sans en voiler l'idée derrière des sons mensongers. Et il ajouta qu'il ne lui semblait pas sage de prendre comme modèle les Africains.
Alors,
il se passa une chose que je ne compris pas.
Béranger se mit à rire. Jorge lui en fit le reproche, et Béranger dit qu'il riait parce qu'il lui était venu à l'esprit qu'à bien chercher parmi les Africains, on trouverait probablement quantité d'autres énigmes, et pas faciles comme celle du poisson.
Malachi, qui était présent, devint furibond. Il prit presque Béranger par le capuchon, l'envoyant s'occuper de ses affaires.
Béranger, vous le savez, est son aide.
Et puis ?
Ensuite, Jorge mit fin à la discussion en s'éloignant. Nous nous en allâmes tous vaquer à nos occupations, mais, tandis que je travaillais, je vis Venantius d'abord, suivi de près par Adelme, approcher Béranger pour lui demander quelque chose. De loin, je vis qu'ils se dérobaient, mais eux, pendant la journée, ils retournèrent l'un et l'autre à la charge. Et puis ce soir-là, je vis Béranger et Adelme s'entretenir dans le cloître avant d'aller au réfectoire.
Voilà, c'est tout ce que je sais.
En somme, tu sais que les deux personnes qui sont mortes récemment dans des circonstances mystérieuses avaient demandé quelque chose à Béranger, dit Guillaume.
Mal à l'aise, Bantz répondit, « Je n'ai pas dit cela. J'ai dit ce qui s'est passé ce jour-là, ainsi que vous me l'avez demandé. »
Il prit un temps de réflexion, puis ajouta en hâte,
« Mais si vous voulez savoir mon opinion, Béranger leur a parlé de quelque chose qui se trouve dans la bibliothèque, et c'est là que vous devriez chercher. »
« Pourquoi penses-tu à la bibliothèque ?
Que voulait dire Béranger avec ces mots « chercher parmi les Africains » ?
Ne voulait-il pas dire qu'il valait mieux lire les poètes africains ?
Sans doute, à ce qu'il semblait.
Mais alors pourquoi Malachi se serait-il emporté ?
Au fond, il ne dépend que de lui de décider s'il doit donner en lecture un livre de poètes africains ou pas.
Mais je sais une chose.
Qui feuillette le catalogue des livres au milieu des indications que seul le bibliothécaire connaît, en trouverait une qui dit souvent Africa. Et j'en ai trouvé même une qui disait « Finis Africae ». Une fois, je demandais un livre qui portait ce signe, je ne me rappelle pas lequel. Le titre avait piqué ma curiosité. Et Malaki me dit que les livres marqués de ce signe avaient été perdus. Voilà ce que je sais. Alors je vous dis, vous avez raison, contrôlez Béranger et contrôlez-le quand il monte à la bibliothèque. On ne sait jamais.
On ne sait jamais, conclut Guillaume en prenant congé de lui.
Puis il entreprit une promenade avec moi dans le cloître et observa que, d'abord, une fois de plus, Béranger était la cible des murmures de ses frères. En second lieu, Bans paraissait impatient de nous pousser vers la bibliothèque. J'observais qu'il voulait peut-être que nous découvrions là-bas des choses que lui aussi désirait savoir. Et Guillaume dit qu'il en allait probablement ainsi, mais qu'il pouvait se faire qu'en nous poussant vers la bibliothèque, il voulait nous éloigner de quelque autre lieu.
« Lequel ?» demandai-je.
Et Guillaume dit qu'il ne savait pas. Peut-être le scriptorium, peut-être les cuisines, ou le chœur, ou le dortoir, ou l'hôpital. J'observai que la veille, c'était lui, Guillaume, qui était fasciné par la bibliothèque, et il répondit qu'il voulait être fasciné par les choses qui lui plaisaient et non par celles que les autres lui conseillaient. Qu'il fallait cependant avoir la bibliothèque à l'œil et qu'au point où on en était, il n'eût pas non plus été mauvais de chercher à y pénétrer d'une manière quelconque. Désormais, les circonstances l'autorisaient à être curieux, à la limite de la courtoisie et du respect pour les usages et les lois de l'abbaye.